Chapitre 5 L'inventaire. Trois jours après, j'appris de M. Prosper, qui me traitait avec une sorte de pitié hautaine et me donnait de sages conseils chaque fois que ma naïveté campagnarde m'attirait la colère de mon maître, j'appris, dis-je, de cet honnête intendant, qu'on allait lever les scellés sur la requête de M. Bréac-Erguen et de M. Castille, les plus proches parents du défunt. En effet, le soir, vers 8 heures, le juge de paix vint, assisté de son greffier, procéder à cette opération et à la confection de l'inventaire. J'avais attendu ce moment avec une impatience indicible. J'allais donc enfin pénétrer dans la chambre où le crime avait eu lieu. J'allais atteindre en partie le but pour lequel j'avais revêtu ce pénible déguisement. Après avoir étudié de près l'homme, j'allais étudier de près les choses. À 8 heures donc, M. Prosper me dit d'un ton où perçait un vif dépit « Monsieur vous demande, le juge de paix et M. Castille sont là. Je m'étais offert pour aider ces messieurs et les éclairer, mais monsieur a refusé mes services et m'a dit de vous prévenir. Prenez cette lampe, mieux que cela. » « Voyons donc, imbécile, vous allez renverser l'huile. Allez là, montez, vite, monsieur vous attend. » Le juge de paix était arrivé, ainsi que M. Castille, neveu du défunt. Nous entrâmes dans le cabinet où l'autopsie avait eu lieu. Le juge de paix procéda gravement à la levée des scellés. Lorsqu'il eut enlevé le dernier cachet et la dernière bande de papier, M. Bréac-Erguen ne put retenir un léger soupir de satisfaction. Le magistrat tira de sa poche la clé qu'on lui avait confiée et ouvrit la porte. « Passez le premier, me dit-il, éclairez-nous. » On avait laissé la chambre dans l'état où elle était le jour du crime. Le lit était encore défait et les draps traînaient sur le tapis. Cette chambre était la dernière de la maison. Ses fenêtres s'ouvraient sur le jardin. Je remarquai qu'elles étaient solidement grillées. Le mobilier, ici encore, était fort simple et peu en rapport avec l'immense fortune du défunt. À quelques pas du lit était placé le fameux secrétaire. C'est de ce côté que se dirigèrent d'abord les 4 assistants.
« On n'a toujours pas trouvé le testament, » nasilla le juge de paix.
« Non, répondit M. Castille, qui paraissait fort ému et qui adressait à son voisin, M. Bréac-Erguen, des regards où on lisait une rage sourde. Celui-ci restait impassible. « Allons, reprit le juge de paix, cherchons encore, nous serons peut-être plus heureux cette fois. » Était-ce une illusion? Il me sembla qu'un sourire imperceptible avait effleuré les lèvres charnues du Breton. Les papiers furent encore retournés, les registres ouverts et feuilletés avec soin. Après 1 heure de recherche, on ne découvrit aucun mot indiquant les volontés dernières de M. Bréa le Noir.
« Vous le voyez, monsieur, dit le juge de paix à M. Castille, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Il est décidément bien établi que votre oncle n'a pas laissé de testament. Vous n'aviez pas connaissance, n'est-ce pas, que le défunt eut d'autres papiers que ceux-ci?
Non, monsieur, répondit l'héritier déçu, sur le front duquel perlait la sueur. Non, mon oncle, il me l'a dit 1000 fois, mettait tous ses papiers et tout son or dans ce secrétaire.
Oh, quant à l'argent, reprit le juge de paix, nous savons où il est allé. Mais c'est vraiment singulier qu'on ne trouve pas un testament. Enfin, la moitié de ma tâche est accomplie. Je vais maintenant procéder à la confection de l'inventaire. »
Le greffier s'approcha d'une table, y déposa une serviette bourrée de papier et se tint prêt, la plume sur l'oreille et le nez relevé, à noter les indications de son chef. À ce moment, je vis le regard de M. Bréac-Erguen, que je ne perdais pas un instant de vue sans qu'il s'en aperçût, se fixer avec inquiétude du côté de la cheminée.
Ce ne fut qu'un éclair, et il reprit aussitôt son air indifférent et farouche. Je suivis son regard. La montre du défunt, superbe breguet à double boîte d'or enrichie de pierreries, était suspendue à un clou près de la cheminée. Voilà un étrange voleur, pensais-je, qui tue un homme pour forcer son secrétaire où il sait ne devoir trouver que quelques pièces d'or, et qui néglige de s'emparer d'une montre de 3 000 francs. On commença par inventorier les meubles, tables, chaises, fauteuils, etc. Voyons un peu ces rideaux, dit le juge de paix en s'approchant de la fenêtre. Éclairez-nous, mon garçon. C'est du damas de soie. Le petit greffier leva le nez. Je croirais plutôt, dit-il, que nous avons là du damas de laine. Mon père et mon oncle en vendaient, je dois m'y connaître. Une discussion s'éleva sur cette grave question entre le patron et son greffier. Pendant ce temps, j'observais attentivement les fenêtres. Elles étaient, je vous l'ai dit, munies de grilles solides. De plus, l'espagnolette était fixée par un gros cadenas. Ce n'est pas par là qu'il est entré, pensais-je. En examinant avec attention le tapis qui touchait à la fenêtre droite, je crus y apercevoir des taches de boue. Je ne sais si vous vous souvenez qu'il a beaucoup plu le 2 janvier et que depuis il a gelé à pierre fendre. On eût dit que quelqu'un avait stationné derrière ses rideaux près de la fenêtre pendant un certain temps. Je notais encore cette circonstance dans ma mémoire. Ce fut le juge de paix qui l'emporta. Le petit greffier finit par convenir qu'il y avait dans les rideaux plus de soie que de laine. « Eh bien, et ce tapis ?» continua le magistrat. « Il ne faut pas l'oublier. »« Tenez, mon garçon, » continua-t-il en s'adressant à moi, « posez la lampe par terre. » Je fis ce qu'il désirait, et après quelques instants de minutieux examen, je vis une trace de pas presque imperceptible marquée en sable jaunâtre sur le tapis. Cette trace partait de la fenêtre et se dirigeait vers le lit. « C'est bon, » dit le juge de paix, « moquette très ordinaire. Pour un millionnaire, c'est assez simple. Et ce lit, du noyer, et quelle forme !» « Voyez donc, monsieur, » ajouta-t-il en riant et en se tournant vers M. Breyer-Kergen, « votre frère, qui avait tant peur des voleurs, couchait dans un lit sous lequel une bande entière de brigands aurait pu se cacher. » Il me sembla que les gros sourcils du breton tremblaient à ces mots, prononcés avec indifférence par le juge de paix. On fit ensuite l'inventaire des objets qui garnissaient la cheminée. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque mes yeux se dirigèrent vers le clou où la montre était suspendue un instant auparavant. Elle avait disparu. Et pourtant, je n'avais pas quitté des yeux, monsieur Breyer-Kergen. Au bout d'une demi-heure, l'inventaire de la chambre fut fini et on procéda à celui des autres pièces. À 11 heures, tout était terminé. Je n'avais pu découvrir encore, reprit Maximilien, après un instant de repos, la raison qui avait décidé M. Breyer-Kergen à me prendre à son service. Il ne m'avait jusqu'à ce jour donné qu'un seul ordre, lorsqu'il me fit venir pour assister le juge de paix et porter la lumière. Sauf cela, il paraissait avoir totalement oublié que j'existais. Cependant, cette raison que je cherchais, je la connus le lendemain même de l'inventaire. Ce jour-là, vers 7 heures, je rencontrai M. Prosper, dont la petite figure exprimait le plus vif mécontentement. « Figurez-vous, me dit-il, qu'il m'envoie porter cette lettre près de la Bastille. » Il n'a pas voulu prendre un commissionnaire, le vieil avare. Il prétend que j'y aille moi-même, et sans tarder, par cette neige et ce froid, il y a de quoi tomber malade. Il s'éloigna en grommelant, puis se retournant. « Ah, à propos, dit-il, il vous demande tout de suite, montez chez lui. » Je trouvai mon vieux breton en robe de chambre, la tête enveloppée d'un foulard et en train de fumer une grosse pipe. « Vous allez prendre un balai et un plumeau, me dit-il de sa voix rogue, et venir avec moi. » J'apportai les deux instruments demandés. Nous descendîmes un étage et entrâmes dans la chambre du défunt. Tout cela est dans un état affreux, gronda mon maître en jetant un coup d'œil sur le désordre de la chambre. Vous allez ranger, balayer, épousseter, et promptement, entendez-vous? Commencez par ce tapis. Il tira les cordons des rideaux. Au grand jour, les traces de pas étaient encore plus visibles. Monsieur Brea Kergen parut le remarquer comme moi. Il ferma les rideaux avec précipitation. « Balayez d'abord ce tapis, et soigneusement, n'est-ce pas ?» Et comme j'exécutais ce travail assez lentement et assez gauchement, comme vous le pensez, je vis le visage du vieux Breton s'empourprer soudain. Il poussa un vigoureux juron. « Plus vite que cela, je vous ai dit que j'étais pressé. »« Oh, continua-t-il à demi-voix, si je pouvais me baisser, si je n'avais pas cette maudite douleur de rein. » Il y a longtemps que j'aurais terminé tout cela moi-même. J'étais arrivé près du lit. M. Brea Kergen parut hésiter un instant. « En donnez aussi un coup de balai sous le lit, » dit-il d'une voix brève. Je me baissai, et je compris l'hésitation qu'il avait montrée à me donner cet ordre, lorsque je vis sous le lit, nettement tracées l'une à côté de l'autre, deux marques d'une poussière jaunâtre, semblable à celle que j'avais remarquée près de la fenêtre et dans la chambre. On s'était caché sous le lit. Ces marques étaient celles de deux talons de bottes. Remarquez bien ceci, elles étaient placées du côté de la tête du lit, ce qui confirmait et expliquait une observation précédente que j'avais faite et dont je vous parlerai tout à l'heure. Comme vous devez le croire, je me gardais bien de faire disparaître ces indices accusateurs. « Maintenant, me dit mon maître, lorsque j'eus fini, vous allez prendre les draps, vous les ferez blanchir le plus tôt possible. Je ne me soucie pas de garder longtemps le linge d'un mort. » Il me sembla qu'il parlait de la fin tragique de son frère avec une indifférence bien cynique. Je pris les draps, les roulai et les mis sous mon bras. « Vous pouvez vous retirer, » ordonna M. Brea Kergen. « Je rangerai le secrétaire moi-même. » Je remontai promptement dans la chambre qui m'avait été attribuée, et après m'être enfermé à double tour, je me hâtai d'examiner les draps que j'avais emportés. Ici, le philosophe interrompit encore son récit. Il paraissait fatigué, je lui en fis la remarque. « Oui, me dit-il, il me semble que je vais avoir une nouvelle crise. » Je me sens une fatigue extraordinaire. J'ai soumis depuis une semaine mon intelligence à un travail excessif dont je ne vous donne ici que la substance. Si vous saviez combien de longues heures de réflexion j'ai passé nuit et jour pour arriver à coordonner tous ces faits et en tirer une solution, pourvu que je puisse aller jusqu'au bout. Puis, après un instant de silence, « N'auriez-vous pas un verre d'eau de vie à me donner? Il me semble que cela me ferait du bien. » J'ouvris une cave à liqueur et la lui présentai. Il but tout sur coup trois verres de rhum, puis poussa un soupir et renversa sa tête sur le dossier du fauteuil. « J'avoue, lui dis-je en prenant place en face de lui, près de la cheminée, que votre récit me jette dans d'étranges perplexités. » Je crois assister à un rêve magique qui développe devant moi ces bizarres silhouettes. Tout à l'heure, vous paraissiez soupçonné du crime, cet ancien chef de bande. Maintenant, vous semblez accuser M. Brea Kergen de fratricide. » Un fin sourire se dessina sur les lèvres du philosophe. Il entr'ouvrit les yeux. « Patience, dit-il, vous n'êtes pas arrivé au bout de votre rêve. » ni moi au bout de mon récit. Vous aurez bientôt d'autres sujets d'étonnement. Je ne vous ai pas encore parlé du docteur Wickson. Il est temps que je vous en touche deux mots. Revenons, si vous le voulez bien, au jour de l'autopsie. Je vous ai déjà dit que mon opinion formelle était que la justice et vous aviez été dupés par une ruse adroite. Mais je ne vous ai pas fait part d'une autre découverte qui est venue changer cette opinion en conviction arrêtée. J'ai remarqué que, lorsqu'il s'approcha du corps, le premier mouvement du docteur indien fut de rejeter un coin du drap sur les pieds du défunt. Ce geste vous a naturellement échappé, mais je l'ai noté, et j'ai aussitôt résolu d'éclaircir ce fait. Dans l'après-midi de ce jour, 2 heures environ après que je vous eus quitté, je retournai à l'hôtel Bréa-le-Noir, et donnant pour prétexte à M. Prosper que vous aviez oublié un papier important et que vous m'aviez chargé de revenir le chercher, je montai dans le cabinet où gisait le cadavre. Je me dirigeai vers le corps et levai le drap qui recouvrait les pieds. Je fus frappé tout d'abord de la forme assez remarquable des membres inférieurs du défunt. Il avait le cou de pied déformé par une élévation, une bosse de la grosseur d'un œuf. Après un court examen, j'aperçus au talon du pied droit une petite tache noirâtre entourée d'un cercle violet. Comme je n'avais pas un instant à perdre, je tirai un canif de ma poche et, pratiquant une incision à cette place, je recueillis dans la boîte de ma montre quelques gouttes d'une liqueur brune mêlée de sang qui s'échappa de cette légère blessure. Rentré chez moi, j'analysai à l'instant même cette liqueur. Vous savez que j'ai étudié la chimie. Oh, que n'ai-je pas étudié d'ailleurs. Mais il me fut impossible de reconnaître quelle était la substance que j'avais recueillie. Je ne me tins pas cependant pour battu. J'achetai un lapin vivant, et prenant au bout d'une aiguille une goutte de la liqueur inconnue, je lui fis une légère piqûre à la patte. Il mourut au bout de 10 secondes comme foudroyé. Je savais donc enfin quel avait été l'instrument du crime. C'était le curare, ce subtil poison que les Indiens mêlent au venin des serpents et dont les effets toxiques sont d'une rapidité épouvantable. L'assassin est caché sous le lit, attendant le sommeil de la victime. Puis, lorsqu'il l'a jugé endormi, il a passé sa main armée de l'aiguille empoisonnée sous les draps et a fait au talon du dormeur cette piqûre 1000 fois plus sûre et plus terrible qu'un coup de poignard au cœur. Voilà donc encore un fait acquis et que confirme une légère tache de sang que j'ai trouvée sur les draps du lit à la place où devaient être les pieds du défunt. Nous sommes loin, vous le voyez, de l'histoire de l'arsenic. Pour moi, l'assassin n'est pas ce malheureux Guérin, c'est M. Bréa-Kerguen, et je pourrais dès demain, avec les preuves que j'ai rassemblées, le faire arrêter par la justice. Mais je veux aller plus loin encore. Et puisqu'il faut que tout crime soit dicté par un coupable, je leur prouverai qu'il ne s'agissait pas ici d'un vol de quelques pièces d'or, mais de la suppression d'un testament et d'un vol de 3 millions. Chapitre 6. Les bijoux disparus. Le récit de Maximilien Heller m'avait vivement frappé. J'admirais cette merveilleuse lucidité, cette observation pénétrante et sûre et cette passion du vrai qui avait conduit mon étrange ami à s'attacher ainsi au flanc de l'assassin pour épier tous ses gestes, tous ses regards et surprendre jusqu'à ses pensées. J'exprimais en termes très vifs mon enthousiasme à Maximilien. « Oh !» me répondit-il avec un sourire un peu mélancolique, « ne vous hâtez pas de me féliciter. Je n'ai pas encore atteint le but. Je connais l'assassin, bon, je connais l'instrument du crime. » Reste encore 3 points obscurs. Comment le meurtrier a-t-il pénétré chez la victime? Quel rapport existe-t-il entre M. Bréa-Bergen et Boulet Rouge? Et quel intérêt le docteur Wickson a-t-il dans le crime? L'avenir me donnera, j'espère, la solution des 2 premières questions. Quant à la 3e, je veux la résoudre le plus tôt possible. Le temps me presse, et il faut que ce point soit éclairci avant que je m'éloigne de Paris. « Ah, comment vous partez? Évidemment, j'accompagne mon maître en Bretagne. Et quel jour nous quittez-vous? Je ne sais pas trop encore, mais je crois que M. Breabergen a de bonnes raisons pour désirer partir dans le plus bref délai, peut-être demain ou après-demain. Vous voyez que je n'ai pas de temps à perdre. Je suis donc venu vous trouver, car vous pouvez m'aider à lever un coin du voile qui me dérobe encore la vérité. Moi? Fis-je surpris. Oui. Aussi n'ai-je pas hésité à vous demander un petit service, et ce préambule, qui vous a peut-être paru bien long, n'était qu'une introduction à ma requête. Parlez, mon cher ami, je serais trop heureux de vous être utile et de concourir, dans la mesure de mes moyens, au succès de votre courageuse entreprise. Vous êtes, je crois, un peu parent de Madame la comtesse de Bréhan. Oui, c'est ma cousine, une femme charmante. J'espère bien, ajoutai-je en riant, que vous ne la soupçonnez pas d'avoir trempé dans le crime. Eh, dit Maximilien avec un sourire, elle est peut-être un peu complice. Mais vraiment, vous m'effrayez. Dites-moi, ne donne-t-elle pas un bal ce soir? Oui, elle a même eu l'aimable intention de m'inviter, mais je n'irai pas. Ah, je vous demande pardon, vous irez à ce bal, et de plus, vous m'y introduirez. Quoi, vous voulez? Cela vous étonne, n'est-ce pas? Eh bien, vous comprendrez mon désir lorsque vous saurez que le docteur Wickson est au nombre des invités. Et vous désirez continuer ce soir vos observations? Précisément. Puisque pour arriver à mon but, je n'ai pas hésité à endosser la veste du domestique, je ne reculerai pas davantage devant la nécessité de revêtir l'habit d'un danseur. Vous danserez, parbleu, comme un jeune homme à marier? Ainsi c'est convenu, n'est-ce pas? Bon, parfaitement. Venez me prendre ce soir à 10 heures. Je me charge de vous présenter à ma jolie cousine. Merci mille fois, dit Maximilien en se levant et en me serrant la main. Mais comment vous absenterez-vous ce soir? Oh, monsieur Bréa, Gergen se couche tous les jours à 9 heures. J'ai la clé du jardin et celle de la ruelle. Je puis sortir et rentrer sans être vu. À ce soir, donc. Vers 10 heures, je vis arriver le philosophe. Je ne le reconnus pas tout d'abord, car le costume dont il était alors revêtu était un déguisement non moins parfait que celui sous lequel il m'était apparu dans la journée. Il s'était mis, avec une grande recherche, un habit noir dessiné à sa taille élégante, ses cheveux étaient soigneusement bouclés, une fine moustache ornait sa lèvre, son visage austère avait pris cette expression souriante et pleine de fatuité qu'affectent les hommes qui passent leur vie dans les réunions du monde. Un gros camélia s'épanouissait sur sa poitrine. Eh bien, me dit-il en me tendant la main, que dites-vous de mon nouveau costume? Ah, vous êtes l'homme le plus extraordinaire que je connaisse, et je vous sais gré à l'avance de tous les remerciements que va m'adresser ma cousine pour lui avoir amené un si parfait cavalier. N'est-ce pas? J'ai tout à fait bonne mine, et vous reconnaissez difficilement en moi, en ce moment, le malheureux fiévreux que vous avez vu il y a 15 jours entre son chat et sa bouillotte. Hélas, ajouta-t-il avec un soupir, je ne suis pas moins faible ni moins malade que l'autre jour. L'énergie qui m'anime est toute factice, je le sens bien, et la réaction sera terrible. Mon seul vœu, mon seul désir est de pouvoir aller jusqu'au bout de ma tâche. Et après, advienne que pourra, j'irai mourir dans ma mansarde. Mais je vois que vous êtes prêt. Partons, n'est-ce pas? Je suis comme le lévrier en chasse, et je ne veux pas perdre un seul instant mon gibier de vue. Ma petite cousine, Madame la comtesse de Bréhan, était le type le plus accompli de la Parisienne, fine, élégante, délicate et mondaine. Elle était mariée depuis 18 mois. Elle n'avait pas encore 20 ans. Le comte de Bréhan était un gentilhomme fort riche, d'excellente famille, qui avait jeté sa jeunesse au vent de tous les plaisirs et qui, arrivé à l'âge mûr, avait réuni les lambeaux un peu épars de son cœur pour les offrir à la plus ravissante petite femme qu'il fût possible de voir. C'était un charmant ménage. Édile aimait son mari parce qu'il était élégant, distingué, qu'il l'avait fait comtesse, qu'il lui donnait les plus riches parures et les plus jolis bijoux, qu'en un mot, il satisfaisait à tous ses caprices avec l'inépuisable tendresse d'un père qui gâte son enfant adoré. Le comte de Bréhan aimait sa chère Édile parce que cette vie nouvelle, commencée à la moitié de sa carrière, le remplissait de joies ineffables et pures et qui lui devait un bonheur inconnu jusqu'à ce jour. Quand elle passait brillante, éblouissante, à travers ces salons dorés qu'elle animait de sa gaieté et de sa jeunesse, il se plaisait à la contempler avec cette joie mélancolique et douce qu'éprouve le voyageur revenu las et désabusé d'excursions lointaines à la vue du clocher de son village et de cette terre natale qu'il n'aurait jamais dû quitter. Elle aimait le monde à la folie, car il y régnait en souveraine adulée. Le comte, qui n'avait plus d'autre volonté que celle de sa femme, d'autres plaisirs que les siens, ouvrait ses salons à deux battants, et pourvu que sa petite reine fût la plus belle, la plus admirée, la plus fêtée, il était heureux. Cela faisait hausser les épaules aux autres hommes. « Oh, mon cousin !» me dit Édile en venant s'asseoir à côté de moi et en me prenant les deux mains. « Que vous êtes aimable de nous avoir amené ce merveilleux danseur. Je viens de faire un tour de valse avec lui. Jamais je ne me suis sentie si légère. Il me semblait que j'avais des ailes aux épaules. Dites-moi, doit-il rester longtemps ?»« Ah non, ma chère Édile, il part dans quelques jours, et je suis sûr que son regret sera vif lorsqu'il saura l'excellente opinion que vous avez de lui. » Elle me fit une petite moue et disparut dans un nuage de mousseline. Maximilien va me trouver 5 minutes après. Il sourit lorsque je lui dis l'enthousiasme qu'il avait inspiré à la reine de Séan. Puis, baissant la voix tout à coup, « Le voici, me dit-il, attention !» En effet, le docteur Wickson venait de faire son entrée dans un des salons. Le comte de Bréhan se précipita à sa rencontre et lui serra la main avec effusion. Le docteur avait sauvé 10 ans auparavant les jours d'une des sœurs du comte et celui-ci lui en avait gardé la plus vive reconnaissance. Lorsque le bruit se fut répandu dans le bal que le docteur Wickson venait d'arriver, chacun voulut voir de près cet homme autrefois si célèbre. Ces cures merveilleuses avaient fait tant de bruit à Paris que même après 10 ans, le souvenir n'en était pas encore effacé. Les danses cessèrent, on se pressa sur son passage. Il sourit légèrement et s'avança au milieu de cette foule brillante avec l'air hautain d'un triomphateur. Le comte lui présenta Édile, à laquelle il fit un salut d'une courtoisie affectée, puis il se dirigea vers le salon où l'on jouait. On avait dressé des tables de jeu dans une serre élégante qui s'ouvrait sur les salons et que le comte avait fait construire pour sa chère Édile. Les joueurs étaient installés derrière des massifs de rhododendrons, de camélias et d'azalées. L'autre partie de la serre avait été réservée aux danseurs, et de temps en temps on voyait passer, à travers le feuillage inondé de lumière, un couple élégant qui venait chercher au milieu de ce printemps factice un peu de repos et de fraîcheur. Monsieur Wickson se mit à une table de jeu. En se penchant pour s'asseoir, il ne put retenir un léger cri de douleur. « Oh, vous souffrez, docteur ?» lui demanda son partenaire, qui n'était autre que notre ancienne connaissance, le procureur du roi, M. de Ribérac. « Oh, mon Dieu, oui !» répondit l'anglais en secouant la tête. « J'ai de vives douleurs, de reins. Ah, monsieur, nous autres médecins, nous guérissons notre prochain, mais lorsqu'il s'agit de nous guérir nous-mêmes, nous sommes les derniers des ignorants. » Je vis les feuilles d'un massif de rhododendron passer derrière le docteur frémir légèrement. Maximilien était à son poste. Je rentrai au salon. Mon ami, M. Robert Cernet, venait d'arriver. Il formait le centre d'un groupe de mamans qui paraissait fort animé. Quelques jeunes filles s'étaient mêlées à ce groupe et on entendait de tous côtés ces exclamations. « Oh, une histoire de brigand! C'est charmant, racontez-nous cela !»« Non, disait gaiement Robert en se défendant, cela troublerait votre repos pendant au moins 10 nuits de suite. » « Mais monsieur, reprit une belle jeune fille aux cheveux blonds, puisque maman vous le demande. »« Oh oui, oui, monsieur, racontez !» fit ma cousine en accourant. « Ces demoiselles sont un peu fatiguées, ce sera un charmant intermède. »« Vos moindres désirs sont des ordres pour moi, madame, répondit Robert à la petite souveraine. « Et je commence mon récit sans plus tarder. »« Ah !» s'écria le cœur joyeux. Et tous ces jolis yeux brillèrent de plaisir, tant les histoires de brigands ont de succès auprès des dames. « Mais au moins, mesdemoiselles, commença Robert, ne vous attendez pas à des brigands d'opéra comique, avec des chapeaux pointus ornés de plumes, des bottes molles et des moustaches cirées. Mon homme, car la bande se nomme d'un homme, n'avait pas, je vous le jure, la moindre poésie. C'était un lourd personnage. » Très vulgaire, une sorte d'ours mal léché, enveloppé d'une grande houppelande garnie de fourrure. Sa figure était cachée par un gros foulard et par une casquette rabattue sur ses yeux. Jeudi dernier, je passai rue de l'université. Il pouvait être 10 heures du soir. J'entendais depuis quelque temps derrière moi un pas lourd et inégal, quand tout à coup je me sentis saisir le bras. « Ne bougez pas !» « Ne criez pas au secours, me dit-on rapidement à voix basse, ce serait inutile. D'ailleurs, je ne veux pas vous faire de mal. » J'essayais de me dégager, mais la main puissante de l'inconnu serrait mon bras comme un étau. « J'ai un petit service à vous demander, continua l'étrange personnage. Je sais qui vous êtes, je sais que vous avez une grande fortune. Vous ne me refuserez pas de me prêter 500 francs. « Peste ! Comme vous y allez, répondis-je à mon brigand, que je prenais pour quelque échappé de Bicêtre. Croyez-vous donc que j'ai cette somme sur moi ? Et cette montre de 500 francs que vous avez achetée avant-hier au Palais-Royal, et cette épingle en diamant de 1 000 francs que votre tante Ursule vous a donnée au jour de l'an ? » Je fus stupéfait. « Oh, c'est quelque mauvais plaisant, me dis-je, qui s'amuse à mes dépens. »« Vous n'avez pas 1 minute à perdre, reprit-il vivement. Je ne voulais que 500 francs d'abord, mais puisque vous vous montrez récalcitrant, il faut me donner la montre ou l'épingle. » J'entendis le roulement d'une voiture qui s'approchait. « Je ne vous donnerai pas 1 centime, dis-je résolument, et si vous ne disparaissez pas à l'instant même, j'appelle la police. Oh, oh. « La police !» me répondit-il avec un gros rire. « Il y a longtemps que je la connais, et avant qu'elle réponde à votre cri, je vous aurai couché sur le pavé. Vous voyez que je ne plaisante pas, allez, obéissez !» La voiture arrivait au grand trot. Mon voleur jeta derrière lui un regard inquiet. Il lâcha mon bras. Je vis luire la lame d'un poignard, mais avant qu'il eût le temps de le lever sur moi, je lui donnai dans la poitrine un coup d'épaule tellement violent que le colosse alla rouler sur un tas de pavés qui bordait la chaussée. Il poussa un épouvantable juron. Je crois que je lui ai cassé les reins. À ce moment, la voiture passa en brûlant le pavé et fit une heureuse diversion qui me permit de m'éloigner à grands pas du lieu du combat. Un joyeux éclat de rire suivit le récit de mon ami. On le félicita de toutes parts du courage et de la présence d'esprit qu'il avait montré dans cette difficile circonstance. Au milieu de ce concert de louanges, retentit tout à coup la voix aigre et discordante d'une vieille fille couverte de bijoux, sur laquelle ce récit avait paru faire une impression extraordinaire. « Mais c'est épouvantable » cria-t-elle en portant un flacon de sel à son long nez. « On assassine dans les rues de Paris !»« Mais rue de l'université, monsieur, c'est là que je demeure. Oh, mon Dieu, je n'oserai jamais sortir de chez moi !» On parvint à calmer la vieille demoiselle, qui paraissait être sur le point d'avoir une attaque de nerfs. Les danses reprirent leur cours un instant interrompu, et le bal recommença avec un nouvel entrain. Je me dirigeais du côté de la serre. Sur le seuil du dernier salon, je rencontrai Maximilien Heller. « Eh bien ?» lui demandai-je. « Il triche horriblement !» me répondit-il à voix basse. Puis il se hâta d'aller inviter Madame de Bréant afin qu'elle ne remarquât pas son absence d'une heure. J'entrai dans la serre. J'aperçus autour d'une table de jeu trois ou quatre hommes debout, immobiles, les yeux ardemment fixés sur le tapis vert. Je me joignis aux curieux. Au bout de 10 minutes, l'Anglais allongeait sa large main vers le tas d'or placé à sa gauche et le faisait glisser dans sa poche avec un flegme imperturbable. Son partenaire se leva. Il était d'une pâleur effrayante. Je l'entendis murmurer à l'oreille du docteur Wickson. « J'aurai l'honneur de vous faire remettre le surplus demain avant midi, monsieur. » Les spectateurs s'entre-regardèrent stupéfaits. L'un d'eux me dit « Voilà la cinquième partie qu'il perd. Ce diable de docteur a jusqu'à présent gagné contre tout le monde. » Cependant, Wickson promenait sur les hommes qui l'entouraient ses petits yeux gris qui brillaient comme des escarboucles. Et d'une voix où perçait l'orgueil du triomphe, « Allons, messieurs, dit-il, qui prend la place? J'espère que vous ne me laisserez pas gagner ainsi pendant toute la soirée et qu'un de vous me donnera sa revanche. » Il y eut un moment d'hésitation dans ce groupe. « Voyons, répéta le docteur, qui s'assied en face de moi ?»« Moi, » fit une voix sourde. Tous s'écartèrent et Maximilien Heller en parut. Il était très pâle, son front était contracté, ses yeux lançaient un feu sombre. Je retrouvai en lui, en ce moment, l'homme fiévreux et farouche, tel qu'il m'était apparu le jour où j'avais fait sa connaissance. L'élégant danseur avait fait place au vengeur de Louis Guérin. L'Anglais fronça légèrement ses gros sourcils rouges et dissimula, derrière un sourire qu'il s'efforça de rendre aimable, la surprise et le dépit qu'il éprouvait. L'Anglais fronça. L'Anglais fronça légèrement ses gros sourcils rouges et dissimula, derrière un sourire qu'il s'efforça de rendre aimable, la surprise et le dépit qu'il éprouvait. « J'espère, monsieur, lui dit-il, que vous serez assez heureux pour vaincre la mauvaise chance qui a jusqu'à présent poursuivi ces messieurs. » Maximilien garda le silence et lança à son adversaire un regard froid et perçant, auquel celui-ci répondit par un clignement d'yeux où se lisait une certaine inquiétude. Puis le philosophe prit les cartes entre ses mains effilées, les battit, les examina avec attention, et les compta tranquillement, une à une. Un nuage passa sur le front du docteur Wickson. Les spectateurs s'entre-regardèrent, non sans une certaine surprise. « C'est à vous de donner, monsieur, » dit Maximilien de sa voix brève, en tendant les cartes à son adversaire. Certes, les témoins de cette scène étrange étaient des joueurs consommés. Leur cœur s'était depuis longtemps bronzé et était devenu presque insensible aux émotions poignantes du jeu. Cependant, la vue de ces deux hommes, luttant froidement et en silence, les regards croisés comme deux lames brillantes, s'étudiant et s'observant avec l'attention et le sang-froid de deux athlètes qui vont en venir aux prises, présentait un tableau singulièrement émouvant. Cette lutte dura un quart d'heure qui nous parut un siècle. Les adversaires paraissaient de force égale. Chacun d'eux avait marqué 4 points. Enfin, Maximilien dit avec un sourire et sans quitter des yeux l'anglais, « Le roi, j'ai gagné !» Le docteur Wickson fit un soubresaut sur sa chaise. Un soupir de soulagement s'échappa de la poitrine de tous les assistants et ceux qui avaient parié reprirent leur gain, non sans féliciter vivement Maximilien Heller. Le philosophe s'inclina et, se tournant vers son adversaire, « Voulez-vous une revanche, monsieur » demanda-t-il. « Non, merci, » répondit le médecin indien en se levant. « J'avais dit que je jouerais jusqu'à ce que je perdisse. Je puis me retirer maintenant. » Au même instant, nous vîmes arriver le comte de Bréant, qui avait l'air fort soucieux. « Ah !» nous dit-il en voyant que nous nous éloignions de la table de jeu, « je suis bien aise que vous renonciez à vos maudites cartes, mes chers amis. J'ai appris que M. L. a perdu une somme considérable et je venais vous prier de mettre un frein à une ardeur dont je craignais un peu, je l'avoue, les suites funestes. » Le docteur Wickson se pencha à l'oreille du maître du logis. « Rassurez-vous, lui dit-il, la voix basse, c'est moi qui ai gagné cette somme. Méfiez-vous à ma délicatesse, cela n'aura pas de suite. » Le comte de Bréant serra avec effusion les mains de l'honnête Anglais. « Dites-moi, continua celui-ci, quel est donc ce... « Monsieur grand et pâle qui se dirige vers le salon. Oh, c'est un charmant garçon, paraît-il, il nous a été présenté par le cousin de ma femme. Ah, et il s'appelle ? Oh, il s'appelle, ma foi, je ne sais plus son nom. » Le docteur Wickson suivit Maximilien des yeux. Son expression était effrayante. On soupa. Il était fort tard, aussi grand nombre de danseurs et de danseuses avaient-ils déjà disparu. Il ne restait que les intrépides, ceux qui aiment à voir lever l'aurore. Pendant le souper, le docteur Wickson gagna tous les suffrages par sa vive et éblouissante causerie. Il raconta d'abord une chasse aux tigres sur les bords du Gange, puis des aventures extraordinaires qui lui étaient arrivées dans un voyage entrepris par lui dans les déserts de l'Australie. Ensuite, il passionna l'auditoire par des récits de peau-rouge. Fenimore Cooper était alors en grande vogue. Tout le monde s'intéressait aux Sioux, aux Pawnees, aux Dewars. Aussi, le docteur fut-il écouté avec une telle attention que toutes les conversations particulières cessèrent brusquement. Au milieu d'un silence solennel, on n'entendait plus que la voix de l'anglais. Ensuite, et par une série de transitions qui seraient trop longues d'énumérer, il arriva à raconter ces 1000 historiettes qui font le bonheur des Parisiens sur Monsieur Untel, Mademoiselle Trois Étoiles, Mademoiselle Chose, etc. Ce diable d'homme paraissait tout connaître, et on voyait à ses réticences habiles qu'il en savait plus encore qu'il ne voulait en dire. Il me fit l'effet d'une sorte de comte de Saint-Germain. Il avait vu tous les pays, tous les hommes célèbres des cinq parties du monde, et paraissait même, chose encore plus extraordinaire, avoir habité plusieurs pays à la fois. Comme il aimait par-dessus tout à parler de lui et de ses hauts faits, il ne tarda pas à dire quelques mots des guérisons célèbres qu'il avait opérées. L'attention des auditeurs redoubla. « Oui, messieurs, oui, mesdames, » fit-il en élevant la voix, « je suis sûr qu'en tenant seulement la main de l'un de vous pendant une minute dans les miennes, je pourrais lui dire quelle est sa maladie et en même temps lui indiquer le remède. Oh, « c'est incroyable, c'est étonnant » s'écriait-on de toutes parts. On allait demander au docteur de vouloir bien en faire l'expérience, lorsque Édile, qui préférait les accents de l'orchestre à la voix du docteur et le cotillon à une conférence de médecine, se leva pour passer au salon et tout le monde suivit. Pendant que les danses recommençaient, un cercle nombreux s'était formé autour du docteur indien. Chacun voulait connaître le mal qui devait l'emporter et recueillir un peu de ces poudres impalpables qui avaient des effets si merveilleux. L'anglais se prêta avec beaucoup de bonne grâce au désir qu'on lui exprimait. « Oh, monsieur !» dit d'un ton dolent la vieille fille aux bijoux. « Si vous arrivez à connaître le mal que j'éprouve, je vous proclamerai le premier médecin du monde. »« Oh, la récompense est trop précieuse, mademoiselle, » répondit galamment le docteur, « pour que je n'essaie pas de la mériter. » La grande demoiselle rougit et tendit sa main maigre à l'anglais. Celui-ci parut réfléchir pendant quelques secondes. « Oui, vous êtes bien souffrante, en effet, n'est-ce pas, monsieur ?»« Oui, » répéta le docteur, « vous devez ressentir un malaise général sans que le siège de la maladie soit bien positivement déterminé. »« C'est cela, monsieur, c'est cela. » « Des palpitations de cœur. Oh oui !»« Eh bien, je vais vous guérir, » reprit l'anglais avec un aplomb imperturbable. Il porta la main à la poche de son habit et en tira un petit paquet de papier blanc. « Vous prendrez cette poudre 2 fois par jour, » lui dit-il, « et au bout d'une semaine, votre mal aura disparu. » Édile s'approcha du groupe. « Allons, mademoiselle, » dit-elle de sa voix joyeuse, en frappant dans ses petites mains, « ces messieurs vous réclament. Ce n'est pas au bal qu'on doit faire dire sa bonne aventure. » Le comte de Bréant adressa à sa femme un regard des plus tendres, qui avait l'intention d'être un reproche pour la manière irrévérencieuse dont elle parlait de la science du médecin, son hôte. Mais Édile feignit de ne pas le voir et lui tourna le dos si gentiment que cet heureux mari ne put s'empêcher de penser qu'il avait la plus charmante petite femme du monde. Veuillez m'excuser, madame, lui dit le docteur Wickson en s'approchant d'elle avec un sourire prétentieux. Mon humble science vient troubler bien mal à propos votre délicieuse fête. J'espère que vous m'accorderez votre pardon, afin que je n'emporte pas dans mes courses lointaines le pénible regret de vous avoir déplu. » Il lui tendit la main. « Voyez, me dit Maximilien à voix basse, quelle superbe bague de diamants Madame de Bréant a au doigt, et de quels yeux le docteur Wickson la regarde. Elle refuse de lui donner la main. Bien, c'est sage. » Je ne pus m'empêcher de rire de l'idée du philosophe, et j'ai cru qu'en ce moment, ses prétentions l'aveuglaient un peu. « Voici 3 heures du matin, lui dis-je, ne serait-il pas temps de songer à la retraite ?»« Attendons encore quelques minutes, » me répondit-il, sans perdre des yeux le médecin indien. « Il y aura sans doute un dénouement à tout ceci, et je désire y assister. » La prédiction de Maximilien Heller ne tarda pas à s'accomplir. On entendit tout à coup un cri perçant. Tout le monde se retourna du côté d'où venait ce cri, et on vit la vieille demoiselle aux bijoux qui agitait ses longs bras maigres et roulait des yeux effarés. Mais qu'avez-vous donc? Lui demanda-t-on de toutes parts. Ce que j'ai, ah, madame, mon bracelet, perdu, perdu, il s'est détaché de mon bras, il est tombé sous une banquette. Oh, mon Dieu, j'avais encore il y a une demi-heure. Calmez-vous, dit Edil, qui était accouru au bruit. Les domestiques le retrouveront demain et vous le rendront. Oh, mais ce n'est pas pour sa valeur que j'y tenais. C'était un souvenir.
Il était faux, me dit tout bas ma malicieuse cousine en passant près de moi. Une belle dame aux épaules opulentes, au bras d'une éblouissante blancheur, s'approcha en ce moment d'Edil. Elle avait l'air fort inquiet. Vous me voyez toute tourmentée, ma chérie, lui dit-elle à bivouac, mais vous savez bien cette bague en brillant que mon mari m'a donnée il y a 3 jours. Je crois que je l'ai perdue en retirant mon gant. Vous seriez aimable de recommander à vos gens de la chercher demain et de me la faire remettre.
Ah, oh, mon Dieu ! S'écria une jeune dame, j'ai aussi perdu mon bracelet. Ma broche ! S'exclama une jeune fille.
Ma montre ! Cria un gros monsieur qui avait passé la nuit au buffet.
Ma pauvre petite cousine était devenue toute pâle de saisissement.
Voilà le dénouement, me dit le philosophe en me prenant par le bras.
Retirons-nous sans perdre une minute. Le docteur Wickson venait de s'éclipser. Dans l'antichambre, nous rencontrâmes le comte de Bréant qui gourmandait son maître d'hôtel. Figurez-vous, me dit-il en me serrant la main, que 5 couverts d'argent ont disparu sans qu'on puisse les retrouver. Nous sortîmes en toute hâte de cet hôtel dévalisé et montâmes dans une voiture qui partit au grand trot. Maximilien Heller ne me dit pas un mot pendant le trajet. Il semblait plongé dans de profondes réflexions et je respectais son silence. 5 minutes après, il descendait à l'entrée de la petite ruelle qui longeait l'auberge du Renard Bleu et qui communiquait par une porte basse avec le jardin de l'hôtel de Bréal-le-Noir. Je reçus le lendemain, dans l'après-midi, une lettre ainsi conçue. « Mon cher docteur, nous partons ce soir à 8 heures pour la Bretagne. Ce matin, M. Bréa-Kergen m'a regardé à plusieurs reprises avec une attention qui m'a semblé de mauvais augure. Puis, après m'avoir ordonné de monter dans sa chambre, il m'a fait subir un nouvel interrogatoire non moins détaillé et non moins minutieux que le premier. Je m'en suis tiré avec le même bonheur, c'est-à-dire en affectant toujours la même bêtise. Aurait-il quelques soupçons? Je suis d'autant plus fondé à croire le contraire qu'à la suite de toutes ces questions, il m'a annoncé que décidément il me prenait à son service et que je devais me tenir prêt à partir le soir même pour son château en Bretagne. Je regrette de ne pouvoir vous faire mes adieux de vive voix, mais mon maître me surveille avec une extrême vigilance. Il m'est impossible de sortir. Vous vous êtes toujours montré si plein de bienveillance pour mes bizarreries que je me crois autorisé à vous demander un nouveau service. Je ne sais combien durera mon absence. Peut-être ne reviendrai-je jamais. Je vous nomme donc mon exécuteur testamentaire. Je vous lègue tous mes papiers et tous mes livres. Si je meurs, brûlez mes manuscrits sans les lire. Je tiens surtout à ce que vous fassiez disparaître la liasse de papiers que je vous ai montré à gauche dans ma chambre et qui contient l'histoire de ma triste vie. Adieu encore une fois. Je vous écrirai souvent afin de vous mettre au courant de tout ce que je ferai et de tout ce que je découvrirai. Veuillez m'avertir de même si quelque chose de nouveau vient à votre connaissance. Je vous serre la main, Maximilien Heller. Je restai quelque temps pensif après avoir lu ce billet tracé d'une main très ferme. J'avais peine à comprendre le singulier dessein qu'avait formé le philosophe de s'attacher ainsi au pas du criminel. Mais quel secret espérait-il donc découvrir encore?
N'était-il pas plus simple et moins dangereux d'aller le dénoncer à la justice et de laisser celle-ci percer le mystère et débrouiller les chevaux? Une entreprise aussi périlleuse ne pouvait-elle pas avorter brusquement? Ce déguisement, cette dissimulation de tous les instants me paraissait au-dessus des forces humaines. Que M. Briac et Ergen le surprit un jour en défaut, qu'il conçut le moindre soupçon, et s'en était fait de sa vie. Il était à Saint-Merci, dans ce lointain château de Bretagne, et l'assassin ne reculerait pas devant un crime de plus pour s'assurer l'impunité. Maximilien mort, tout cet échafaudage de preuves, si péniblement dressé, s'écroulerait avec lui, et Louis Guérin monterait sur l'échafaud. Pour me conformer au désir que m'exprimait Maximilien Heller, je me rendis dans sa mansarde, je fis faire un énorme paquet de ses livres et de ses manuscrits et ordonnai qu'on portât tout cela chez moi. Je mis à part la liasse de billets qui renfermait ses mémoires et la déposai dans un tiroir de mon secrétaire.